Radio Okapi.
Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette édition du journal sur Radio Okapi. Je suis Gisèle Cage. Voici les principaux titres. Recrudescence de viol à Lubero Centre. Plus de 200 cas documentés entre janvier et avril 2025. Selon le mouvement Rien sans les femmes, ce chiffre est probablement sous-estimé car de nombreuses victimes n'osent pas dénoncer leurs agresseurs. 40e réunion du Conseil de ministres à Lubumbashi. Félix Tshisekedi appelle à privilégier les travailleurs les plus vulnérables lors des discussions sur l'augmentation du SMIG au cours de travaux du Conseil du travail prévus demain à Kinshasa. Le revenu actuel ne suffit pas à couvrir les besoins essentiels de nombreux travailleurs, les condamnant ainsi à vivre dans la précarité. Plan B de choléra dans la zone de santé d'Opala, province de la Tchopo. Plus de 100 cas, dont 16 décès enregistrés. La montée des eaux et le point d'eau non entretenu seraient à l'origine de cette maladie. Les députés provinciaux, le docteur Aimé Eyane, également directeur de la centrale d'achat et de distribution des médicaments essentiels dans la Tchopo, nous fait le point de la situation dans ce journal. C'est tout pour les titres. Passons immédiatement à cette nouvelle en provenance du territoire de Lubero, Nord Kivu. Le mouvement Rien sans les femmes exprime une profonde inquiétude face à la recrudescence des viols sur les femmes et les jeunes filles à Lubero Centre. Bernadette Karabé, point focal de l'organisation, révèle qu'entre janvier et avril 2025, plus de 200 cas de viols ont été documentés dans les hôpitaux locaux. Ces chiffres sont probablement sous-estimés car de nombreuses victimes n'osent pas dénoncer leurs agresseurs. Cette militante de droits des femmes exhorte le gouvernement à restaurer la paix dans la région et appelle la justice à sévèrement punir les auteurs de ces crimes odieux. Bernadette Kourabé s'est exprimée au téléphone avec André Kitenge, soulignant l'urgence d'une action immédiate pour protéger les femmes et les filles dans le Lubero.
Depuis le mois de janvier, la femme du territoire de Lubero ne cesse d'être agressée du jour au jour à cause de l'insécurité grandissante. C'est ainsi que depuis le mois de janvier 2025, nous avons déjà identifié 253 cas de viol. Et ces cas de viol sont des personnes qui sont venues à l'hôpital pour recevoir des soins. Il y a beaucoup de cas parce qu'il y a aussi d'autres mamans qui ne dénoncent pas. Elles ont peur d'être stigmatisées. Elles ont peur aussi même des bourreaux. C'est pourquoi nous appelons au gouvernement d'instaurer la paix. Nous appelons aussi la justice de bien faire son travail. Parce que quand le bourreau est connu mais il n'est pas puni, là on encourage encore. Mais si la justice prenait à main vraiment son travail et punir tous ces auteurs-là, je pense que les cas de viol vont diminuer dans notre territoire.
Dans la même région, deux semaines après la reprise des activités bancaires de la Cadeco à Goma, la population demeure réservée et très prudente. De nombreux défis ont été identifiés entravant le bon fonctionnement de cette institution financière initiée par la rébellion de l'AFC M23. Les détails avec Jacques-Yves Moulima.
La relance des activités de la Cadeco à Goma, initiée sous l'administration du M23 AFC en mars dernier, a suscité un grand intérêt local. Cette initiative visait à restaurer un circuit financier autonome dans la région où les institutions bancaires sont fermées depuis fin janvier. Cependant, plusieurs défis ont été identifiés deux semaines après la réouverture. D'abord, l'absence de code juste. La Cadeco ne dispose pas de ce code essentiel pour les transactions internationales, ce qui limite ses capacités, selon un économiste, à opérer comme une banque conventionnelle. Ensuite, la confiance limitée de la population. D'après cet économiste sur place, bien que la réouverture de la Cadeco à Goma ait été bien accueillie par la population, celle-ci prend un peu de recul. Les opérateurs économiques expriment des réserves concernant la sécurité de leurs dépôts. Cela en raison de la situation politique instable. Un autre opérateur économique témoigne que l'existence de la Cadeco ne sert aujourd'hui qu'à percevoir des taxes et des impôts. En dépit de la stratégie d'octroyer aux anciens épargnants un crédit avec un plafond de $200 par semaine, les dépôts sont toujours difficiles, tout simplement parce que l'argent liquide ne circule pas.
Comme mentionné dans les titres, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a exhorté les organisateurs des travaux du Conseil du travail prévu du 21 au 24 avril à Kinshasa à accorder une attention particulière aux travailleurs les plus vulnérables lors de la discussion sur l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Il a souligné que ces travailleurs dont les revenus actuels ne suffisent pas à couvrir leurs besoins essentiels sont le plus durement touchés par la précarité. Cette directive a été donnée lors de la 40e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Écoutez Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait de compte rendu sélectionné par Blaise Makassi.
Le président de la République a commencé par saluer la tenue de la 37e session du Conseil national du travail, dont les travaux préparatoires débutés le 8 avril 2025 ont été déjà clôturés pour laisser place aux travaux proprement dits qui se dérouleront du 21 au 24 avril 2025. Ces cadres tripartites réunissant le gouvernement, les représentants des travailleurs et ceux des employeurs demeurent l'une des expressions les plus vivantes de notre démocratie sociale. Ils constituent un espace privilégié pour bâtir des solutions durables aux défis de notre temps. Le président de la République a insisté pour que ce conseil soit bien plus qu'un rendez-vous institutionnel. Il doit être un moment d'écoute sincère, des propositions audacieuses et d'engagement ferme.
À l'arrivée du sénateur Joseph Kabila, président honoraire de la RDC à Goma, dans la province du Nord Kivu, le porte-parole Patrick Mouyaya a annoncé que le gouvernement reste vigilant. Lors d'un briefing avec la presse hier samedi à Lubumbashi, il a précisé que le gouvernement examinera si les actions de Joseph Kabila à Goma ne compromettent pas la sécurité de la RDC. Les propos de Patrick Mouyaya ont été recueillis par Paulin Munanga.
On attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer des certaines choses, mais ici, il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé. Il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois. Maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, mais il faut faire attention dans la symbolique, parce que nous tous nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a Mzé Laurent-Désiré Kabila, qui a fait le serment de ne jamais trahir le Congo. Alors, il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres successeurs, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzé. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir.
Sachez aussi que les activités du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD sont suspendues sur l'ensemble du territoire national selon une décision du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières publiée hier à Kinshasa. Cette mesure fait suite à l'implication avérée de l'autorité morale de ce parti dont la guerre d'agression rwandaise précise le communiqué. Le ministère de l'Intérieur critique également l'attitude ambiguë du sénateur Joseph Kabila qui n'a jamais condamné les agresseurs malgré l'occupation d'une partie du pays. Enfin, le ministère dénonce le choix délibéré de Joseph Kabila de rentrer au pays par la ville de Goma sous contrôle ennemi. Dans la même veine, réagissons à l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. L'organisation Congo Action pour la démocratie agissante, CADA, affirmait que l'ancien président a révélé sa complicité avec l'AFC M23 dans une déclaration publiée hier samedi dont une copie est parvenue à Radio Capi. Le coordonnateur de cette structure demande que Joseph Kabila soit déchu de ses immunités, notamment pour complot contre l'État congolais. Écoutons Eric Kamba, joint par Jacques-Yves Molima.
Il résulte, selon CADA, que l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a dévoilé solennellement sa collusion avec l'AFC M23, en laquelle il reconnaît une aspiration du peuple congolais, alors que cette coalition est reconnue être à la solde du Rwanda par la communauté internationale, qu'il a souligné sans ambages, notamment dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité, votée à l'unanimité de ses membres le 21 février 2025. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, s'investit dans la quête de trouver des béquilles diplomatiques au président rwandais Paul Kagame, alors que celui-ci voit le soutien dont il avait jusque-là de la part de la communauté internationale se dorober sous ses pieds. Kada demande donc à ce que Joseph Kabila soit déchu de ses immunités pour complot contre l'État congolais et violation de la loi numéro 18-021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Dans la province de Lomami, plus de 100 voyageurs du train New Express Diamant Béton de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, SNCC, sont en détresse depuis près d'une semaine à la gare ferroviaire de Mwene-Ditou, située à environ 130 km de Mbuji-Mayi. Le train attendu par ces voyageurs n'a pas pu atteindre sa destination en raison d'un déraillement survenu la semaine dernière dans la localité des Kaloulé-Nord, dans la province du Haut-Katanga. Selon des sources proches de SNCC, certains voyageurs souhaitant annuler ou reporter leur déplacement vers le Haut-Katanga ou le Haut-Lomami ont pu obtenir le remboursement de leurs billets. Des explications avec Esther Ndalafina.
Ils sont plus de 100 voyageurs par train New Express Diamant Béton bloqués depuis une semaine à la gare ferroviaire de Mwene-Ditou. Nombreux proviennent de Mbuji-Mayi, de Cabinda et se rendent dans la province du Haut-Katanga. D'autres par contre souhaitent arriver à Kamina dans la province du Haut-Lomami avant de prendre la direction ferroviaire de Kabalo, Kongolo, Kindu et Kalemi dans la province du Tanganyika. Accompagnés des enfants, ces voyageurs passent des nuits à la Belle Étoile en attendant la fin des travaux de déraillement des wagons marchandises intervenus à Kaloulé-Nord dans la province du Haut-Katanga. Certains voyageurs disent vivre dans des conditions difficiles.
Ils nous ont informé que le départ est prévu pour le 20. Puis ils ont changé en disant qu'ils peuvent nous amener à Luena où chaque passager peut se débrouiller. Cependant, pour accéder aux toilettes, il faut payer 500 francs. Nous payons l'eau pour préparer de la nourriture et pour nous.
Aux dernières nouvelles, nous apprenons que la SNCC a procédé ce vendredi pour remboursement des frais des tickets de plusieurs voyageurs. Esther Ndalafina, Mbuji-Mayi, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni au Nord Kivu, la MONUSCO investira près de 50 000 dollars américains pour établir et équiper 6 salles de classe de l'Institut Mabasele Angiti, situé à environ 15 km de la ville de Beni. Ce projet à impact rapide de la mission onusienne vise à promouvoir l'éducation des jeunes filles pour garantir leur autonomisation tout en renforçant la collaboration entre la communauté et la MONUSCO. La cérémonie de lancement de travaux a eu lieu vendredi, suscitant une grande satisfaction parmi les bénéficiaires et la communauté qui font face aux attaques répétées de rebelles des ADF. Guylaine Kassassia a été sur place. Voici son reportage.
Il y a 4 ans, la communauté de Ndité s'était mobilisée pour construire des bâtiments de 3 salles de classe chacun. Seulement, faute de moyens, les travaux n'ont jamais été à leur terme. Ce projet de la MONUSCO arrive donc à point nommé, car il va permettre non seulement d'achever ces travaux, mais aussi d'équiper les 6 salles de classe. Mathieu Kambale Soumaïli est le préfet d'études de l'Institut Mabasele.
Cette école a la capacité de recevoir 1000 élèves, mais aujourd'hui nous sommes dans les centaines.
Avec cette œuvre, en tout cas, c'est pour répondre à un grand besoin de la communauté local et nous-mêmes nous sommes fiers.
Et vous supposez que l'effectif va augmenter?
Ça c'est sûr. Je suppose que c'est le début encore d'une nouvelle renaissance.
Même satisfaction du côté des élèves qui se réjouissent de pouvoir étudier enfin dans de bonnes conditions. Gervais Kakoulé, l'un d'eux, appelle les autres jeunes du milieu à bien sauvegarder cette œuvre.
C'est magnifique car il y a certaines salles qui n'ont pas de portes, mais grâce à la MONUSCO, nos salles seront réhabilitées aux jeunes. Comme conseil, je vais les éviter d'être de beaux citoyens pour conseiller notre école.
Et ce projet de 40 000 dollars américains sera exécuté par l'entreprise Synergie d'études architecturales et des constructions SEAC pour une période estimée à 3 mois avec une main-d'œuvre locale. Beni Higulen Kassassia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président Vladimir Poutine a ordonné aux troupes russes d'observer un cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion des Pâques à partir de samedi 19 avril et jusqu'à la nuit de dimanche à lundi, appelant Kiev à faire de même. Je donne l'ordre de cesser toute hostilité pendant cette période, a déclaré Vladimir Poutine au cours d'une réunion retransmise à la télévision russe. Nous supposons que la partie ukrainienne ne suivra notre exemple, a-t-il ajouté. Et selon le chef de l'État russe, la réponse de l'Ukraine montrera la sincérité du régime de Kiev, sa volonté et sa capacité à respecter les accords, à participer au processus de pourparlers de paix visant à éliminer les causes profondes de la crise ukrainienne.
L'invité.
La zone de santé d'Opala, située à environ 250 km au sud-ouest de Kisangani, connaît actuellement une flambée de cas de choléra. En moins d'une semaine, plus de 106 cas, dont 16 décès, ont été enregistrés. Pour en savoir plus, nous recevons le député provincial élu de la circonscription électorale d'Opala, le docteur Aimé Eyane, qui est également directeur de la centrale d'achat et de distribution des médicaments essentiels dans la Tchopo. Ils sont Christian avec Jacques Moukonkole. Suivez.
Docteur Aimé Eyane, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
La zone de santé d'Opala est affectée actuellement par le choléra. Depuis quand cette maladie s'est-elle déclarée dans cette entité?
Bon, en fait, nous avons été saisis par cette information seulement hier qu'il y a environ 5 jours passés qu'ils ont commencé à notifier des cas de choléra. Donc, des patients qui se présentaient avec des cas de symptômes de diarrhée, de vomissements.
Quelles sont les entités affectées et combien de cas ont été enregistrés jusque-là?
Les entités qui sont affectées par les cas de choléra, c'est principalement l'aire de santé Lomami, l'aire de santé Opala 1 et Irema à plus de 60 kilomètres. Mais si vous voyez bien, ce sont des aires de santé qui sont situées le long de la rivière Lomami.
Quelle est la tranche d'âge la plus affectée?
La tranche d'âge la plus affectée, ce sont des enfants de moins de 5 ans, tels qu'on nous a communiqué.
Les entités affectées étant localisées le long de la rivière Lomami, peut-on dire que l'eau consommée par la population ici serait à l'origine de cette maladie?
Bon, actuellement, on ne sait pas encore dire avec beaucoup d'évidence que c'est l'eau qui serait à la base de ça, de cette épidémie, mais nous pensons que avec la montée des eaux qu'il y a eu tout récemment et les points d'eau à Opala, les sources d'eau à Opala ne sont pas vraiment bien entretenues après ces inondations, et je crois que c'est ça qui serait à la base de ces cas de choléra.
Avec une centaine de cas en une semaine, il y a certainement des cas de décès. Combien a-t-on rapporté actuellement?
Jusqu'à hier, le 17 avril, on parle de 17 cas, de 16 cas plutôt de décès.
Docteur Humé, est-ce que la prise en charge des malades est assurée correctement à Opala?
Il y a beaucoup de difficultés dans la prise en charge. Il n'y a pas d'équipement pour la protection. Il n'y a pas également des kits de prélèvement et de prise en charge.
Donc il y a un problème aussi bien de médicaments que de matériel.
Exactement.
Au regard de ce tableau sombre que vous venez de dresser, docteur, peut-on dire que la situation sanitaire à Opala est préoccupante?
La situation est très préoccupante, messieurs les journalistes, parce que même en dehors de ce cas de choléra, il y a aussi un pox qui sévit dans la contrée. Et donc, depuis le début de l'année jusqu'à hier, on a 106 cas, plus de 106 cas de un pox avec des cas de décès déjà.
Comment peut-on expliquer cette explosion de Mpox dans cette entité?
Ben, je me dis peut-être que c'est lié à la consommation des viandes de brousse également et le fait que les gens sont à la maison, ils consultent pas les structures de santé.
Alors, quel message pouvez-vous adresser à la population?
Bon, le message, c'est d'abord l'apaisement et j'appelle également la communauté à observer les mesures d'hygiène. Il faut toujours se laver les mains, et donc les mains au savon, et même aux cendres. Donc on peut aussi utiliser ça pour se laver les mains.
Et que direz-vous aux autorités, aussi bien politiques que sanitaires?
Je demande aux autorités d'organiser très rapidement une descente sur terrain avec des équipements et médicaments pour assurer une prise en charge efficace de ces cas de choléra et de Mpox.
Docteur Aimé Eyane, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Docteur Eyane, également directeur de la centrale d'achat et de distribution des médicaments essentiels dans la Tchopo, faisait le point de la situation sanitaire dans la zone de santé d'Opala, caractérisée par la flambée de cas de choléra au micro de Jacques Moukonkole. Ainsi s'achève ce journal sur Radio Kapi, mis en onde par Pierre Diassinois, coordination Rose Alizawadi, sous la supervision de Jacques Yves Molima, présentation par Gisèle Cage. Merci de tout cœur de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de votre radio pour le reste du programme et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.